Europe 1 Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
Les débatteurs du dimanche, avec Jean-Yves Le Borgne à ma droite, bonsoir.
Bonsoir.
Et bonsoir à Frédéric Dabi.
Bonsoir Pierre.
À ma gauche, bonsoir. Donc. Et donc du coup, face à face, pour débattre de l'actualité, commençons mon cher Frédéric, vous qui êtes le directeur de l'opinion à l'IFOP, par ce sondage qu'on a évoqué tout à l'heure dans le journal de 18h. Nous avons à peu près trois quarts des Français qui sont mécontents contre l'action d'Emmanuel Macron dans le dernier baromètre IFOP-JDD. Et nous avons, dans ces 72%, et c'est ça qui est assez terrible, j'allais dire, 47%, donc dans les mécontents, il y a une majorité de très mécontents.
Oui, c'est le fait majeur de ce sondage, parce que 26%, ça paraît bas, bien sûr. Il a perdu, Emmanuel Macron, une dizaine de points depuis cette réforme des retraites.
26% mais, de satisfaits.
François Hollande a fait trois fois en 2016 14%. François Mitterrand, après la période Édith Cresson, était à 21%. Emmanuel Macron a déjà fait moins bien au moment des Gilets jaunes. Mais là où il y a un fait nouveau qui montre à quel point, Pierre, les choses sont personnalisées. La relation avec des Français est envenimée. Comme nous disent des Français dans les enquêtes, cette réforme des retraites, c'est lui contre nous. Il est seul, il n'écoute pas et trois quarts des Français y sont défavorables. Donc dans ce cadre-là, le fait qu'il y ait 47% de personnes très mécontentes, il y a une nuance entre dire « je suis plutôt mécontent », sous-entendu « je peux peut-être être embarqué, je peux peut-être calmer ma colère » et être très mécontent, ça montre à quel point cette relation s'est envenimée. C'est le score le plus élevé pour lui depuis son arrivée à l'Élysée en 2017, parce qu'au moment des Gilets jaunes, il avait moins de personnes très mécontentes et on s'en souvient qu'avec le grand débat, avec le fait qu'il apparaissait comme un rempart face au désordre, il avait connu une remontada d'une quinzaine de points entre le saccage de l'Arc de Triomphe et les élections européennes de 2019. Là, ça montre à quel point les choses sont compliquées. Alors, bien sûr, on ne sait pas ce qui va se passer. Le sondage n'est pas un pronostic. Il peut connaître un quatrième rebond dans l'opinion publique. Mais sur le court terme, j'ai du mal à croire à cette remontada parce que les choses sont très personnalisées. Il est minoritaire dans toutes les catégories. Il est même en dessous des 40% dans des segments force. Et on voit à quel point, malgré ses déplacements, malgré les 100 jours, il n'arrive pas à fermer cet épisode retraite. Les Français, en tout cas, n'ont pas tourné la page.
D'où cette, on va en parler, d'où cette interview face au lecteur du Parisien qui est tout juste mise en ligne ce dimanche soir, où notamment Emmanuel Macron reconnaît qu'il aurait dû se mouiller davantage pour défendre la réforme contestée des retraites. Et il a annoncé qu'il allait dorénavant se réengager dans le débat public. Jean-Yves Le Borgne.
Bah, écoutez, moi je crois que ces chiffres méritent une interrogation. Est-ce que nos compatriotes sont à 72% mécontents du président ou mécontents de la décision avec laquelle ils le confondent, qui est celle de la réforme des retraites? On savait qu'il y avait une majeure partie des Français qui étaient opposés à cette réforme. Alors que tout à coup, il soit des aficionados du président qui en est le porte-drapeau, c'eût été quand même bien surprenant. Et voyez-vous, je pense que ce sondage, il pose la question de l'incarnation du président. Qu'incarne-t-il, le président ? Eh bien, aujourd'hui, il n'incarne pas seulement une sensibilité, une orientation, une sorte de philosophie de ce que sera demain, ce qu'on ne peut jamais prévoir d'une manière détaillée. Il incarne les détails des choses. Et nous retrouvons, je dirais, la quasi-transparence du Premier ministre. En disant cela, je ne vise pas Elisabeth Borne, je vise le poste de Premier ministre, la fonction. C'est-à-dire qu'une réforme comme celle des retraites, bien sûr, il était inconcevable que le président ne dise pas qu'il y était favorable, mais une réforme d'un point spécifique de l'organisation sociale qui n'est pas un bouleversement mérite d'être porté par le Premier ministre, par le ministre concerné, pas nécessairement par le président. Et là, finalement, eh bien, on a le sentiment que la politique française, c'est le président de la République avec un certain nombre d'ombres ici ou là qui ne sont finalement que des collaborateurs, comme disait le président Sarkozy. Oui. Et là, ça pose un problème d'institution.
Ouais, et mais le problème, c'est que quand on roule en voiture et quand on crève un pneu, bah, on se dit qu'on a une roue de secours. Mais quand on ouvre le coffre et quand on voit que la roue de secours est crevée également, je fais cette image de Frédéric Dabi, parce que de son côté, Elisabeth Borne est à 70% de mécontents.
Oui, elle n'en est pas du tout dans la logique du Premier ministre fusible qui protège le président. C'est au contraire le président paratonnerre qui, voit l'électricité négative conduire vers lui. Par rapport à ce qu'a dit Jean-Yves, c'est très intéressant sur deux points. C'est vrai que la réforme des retraites écrase tout. C'est un sondage, oui, mais c'est aussi une enquête qualitative. C'est-à-dire, je fais un petit peu de pédagogie pour nos auditeurs. Au-delà de la question satisfait, mais content qui peut être un petit peu plate, on demande aux personnes, pourquoi êtes-vous plus satisfait ? Pourquoi êtes-vous plus mécontent du président ? J'ai rarement vu ça, et ça fait des années
que je suis borré. Les raisons de la colère.
Les raisons de la colère, monsieur Steinbeck, c'est l'idée que la réforme des retraites écrase tout. Même l'inflation, même le pouvoir d'achat, même l'Ukraine, et sont quasiment très peu cités. Donc c'est vrai que le président prend de plein fouet, malgré sa volonté de sortir avec toutes ses velléités, son désir de se réengager dans le débat public, prend de plein fouet le mécontentement, la colère des Français avec l'idée qu'il n'a pas écouté. L'idée, et c'est le contraire de ce qu'on a vu après les Gilets jaunes, que la chienlit, c'est lui, pour reprendre un célèbre slogan anti-gaulliste de mai 68. Et donc, c'est vrai que, pour l'instant, les marges de manœuvre sont limitées. Deuxième élément que vous avez mis en avant, c'est l'incarnation. C'est vrai que dans cette relation, c'est les Français contre le président. La relation est envenimée. L'imaginaire sur lequel le président est là pour changer la vie, eh ben, a complètement disparu. Alors même que le président essaye, avec ce qui a été annoncé sur le permis à points, ce qui a été annoncé sur la fin de vie, ce qu'il va sans doute annoncer, j'ai pas vu l'interview dans Le Parisien, mais il a dû sans doute donner, a fait lors de son intervention, du grain à moudre sur la santé, l'éducation, faute d'incarnation, avec une première ministre qui est très réduite au 49-3, qui a toujours une bonne image personnel, mais qui est dans la roue du président sur la réforme des retraites sur le court terme. C'est ce brouillard qui fait que un rebond me paraît compliqué. Et puis on n'est pas encore sorti, Jean-Yves, de cette réforme, puisqu'il y a le 1er mai. Le 3 mai, il va y avoir l'examen par le Conseil constitutionnel du RIP, du deuxième RIP, peut-être un peu moins mal emmanché, si je puis dire, que le premier. Donc, pour l'instant, malgré tous ces efforts, malgré des déplacements, malgré des interventions dans des journaux phares, les Français restent dans ce « lui contre nous ».
Oui.
Je me pose une question.
Et après, je vais vous donner les punchlines du président.
Oui. Nous sommes aujourd'hui au lendemain de la réforme des retraites, tout juste acquise en niveau du droit positif. Que dira-t-on dans quelques mois ? Dira-t-on que le président a la fermeté et la rationalité de demeurer sur sa ligne, et, ou dira-t-on qu'au fond, il aurait dû encore retirer cette réforme, finalement manifestant une certaine forme de faiblesse. Je pense que quand on croit qu'un projet est bon pour le pays, qu'il est nécessaire pour un équilibre social aussi fondamental que la problématique des retraites, à quoi aurait ressemblé cette injonction que les syndicats transmettent depuis longtemps, à savoir « il faut retirer le projet ». Je pense qu'un président qui, en quelque sorte, se nie lui-même dans l'opportunité du projet qu'il porte, n'est plus un président respectable, et que peut-être, à ce moment-là, la crainte d'une popularité complètement effacée à cause d'une absence d'autorité et de capacité, de courage en maintenant une réforme impopulaire, c'est un point qui est important et qui nous donne rendez-vous dans quelques mois.
Alors, réponse.
Oui, je vais réagir parce que c'est très intéressant. Jean-Yves a brossé un courant d'opinion qui est: le président a tenu bon, il a eu du courage, la rue ne doit pas s'imposer. C'est un courant, on se parle franchement, très minoritaire dans le pays, mais qui existe. Le président
encore
est
encore minoritaire.
Encore, nous verrons. Encore, toujours. Pour l'instant, il est minoritaire. Hic, hic, et nunc, ici et maintenant, pour faire du mitterrandisme. C'est vrai que je suis frappé de voir.
C'est avant tout du latin, et je pense qu'il y a quelques empereurs romains qui ont dit à ça avant Mitterrand.
Très souvent, bien sûr. Mais l'idée, c'est que malgré une vague d'enquête très compliquée, le socle du président tient toujours. Il y a toujours trois quarts de soutien dans chez ses électeurs du 10 avril 2022. Ce n'était pas évident. Et Nicolas Sarkozy et surtout François Hollande avaient connu des vrais trous d'air même dans leur cœur de cible. Et puis, cette posture d'il a tenu parole, il a été courageux, fait qu'il progresse à droite. Pour la première fois depuis longtemps, il regagne de la satisfaction chez les sympathisants LR dans l'électorat de Valérie Pécresse. Ça ne suffit pas pour assurer cette remontée, ce regain de confiance chez les Français. Pour l'instant, je trouve qu'il est, il est dans le dur, mais comme rarement il l'a été avec ces fameux 47% dont Pierre de Villeneuve parlait. Mais c'est vrai que ce courant d'opinion est là.
Alors, pour ce qui concerne justement le président, qui, là, on a l'impression qu'il y a un côté action-réaction. C'est-à-dire qu'il y a ce sondage qui tombe dans le JDD, dont j'imagine que le président était non pas au courant, mais il savait que ça allait tomber ce dimanche-là. Et donc, voilà, réaction directe sur Le Parisien. Le Parisien, je vous l'avais dit, un journal phare que beaucoup de lecteurs ont entre les mains. Et surtout que c'est en ligne. Donc là, tout le monde peut le consulter. Ce qui m'importe, c'est que le pays avance. Ça, c'est le titre général. Le président fait face à un pays fatigué, avec une réforme massivement rejetée. Il y a toute une série de, comment dirais-je, de punchlines sur, j'appelle ça l'IAKA Faucon. On va accompagner pour que jamais une heure de travail ne puisse être moins intéressante que le RSA. Bon, ça c'est la valeur travail. Il va y avoir des choses et des discussions sur justement la loi travail. Il y a sur l'immigration, je veux une loi efficace et juste en un seul texte. Il y a sur la santé, la réponse est multifactorielle. Il faut former plus de médecins, de pharmaciens, de kinés, d'infirmiers. On doit aussi accélérer la délégation d'actes. On est en train de le faire. Voilà. Et puis alors après, il y a deux choses sur lesquelles je voulais retenir votre attention. La première, c'est l'histoire du référendum. Je ne vais pas lancer aujourd'hui un référendum. Je n'exclus pas à un moment de le faire si je sens qu'il y a la nécessité pour le pays de pouvoir avancer sans que cela le fracture. Il y a dans ce pays une fracture également, voilà, Frédéric Dabi. Peut-être d'abord sur ce premier point et après je vous parlerai de sa réponse à l'arrivée, ou en tout cas la présence là de Marine Le Pen.
Bah, le référendum, c'est un peu le fantôme depuis 2017. Il l'a évoqué, je crois, pendant le premier mandat à plusieurs reprises. Il ne l'a pas fait. Depuis la catastrophe pour l'exécutif du 29 mai 2005, l'échec du traité constitutionnel européen pour les présidents, les trois successeurs de Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron ne se sont pas risquer un référendum. On sait très bien que souvent, les Français ne répondent pas à la question, mais répondent, adressent une remarque à l'émetteur et on sait comment ça termine. Mais en tout cas, je pense que le président prend acte de sa situation étrange. Il n'est pas candidat en 2027, tout le monde le sait, donc il perd de la force, de la légitimité, de l'autorité peut-être jour après jour, même s'il regarde beaucoup. Mais d'un autre côté, il n'y a pas de soupape dans le pays face à un mécontentement, face à une colère. 2023, il n'y a que les élections sénatoriales qui concernent peu de Français. 2024, une élection européenne toujours passionnante, mais où ça vote peu et où qui n'est rarement, comment dire, anticipatrice de mouvements dans le champ, dans le cycle électoral et dans le champ politique. 2025, pas d'élection. Le premier moment réel d'une élection intermédiaire telle que théorisée par Jean-Luc Parodi, c'est 2026. Donc c'est vrai qu'un référendum permettrait peut-être, quel qu'en soit le résultat, quel qu'en soit le thème, de peut-être défracturer les choses, en tout cas pacifier les choses.
Jean-Yves Le Borne.
Je ne suis pas sûr que l'appel au référendum soit de nature à pacifier quoi que ce soit. Je pense qu'il y a eu dans la période récente une sorte de mouvement nouveau qui est intéressant, à savoir que une certaine voix populaire veut prendre la place de ceux qui ont été élus pour décider. Et que au fond, cette sorte d'idéologie de la démocratie directe nous menace un peu. Et que l'idée du référendum pourrait être d'appeler une réponse qui qui serait au fond, c'est à nous de gouverner et ceux qui sont en position de prendre des décisions sont illégitimes parce que ce ne sont pas nos positions qu'ils prennent, mais les leurs. Et puis, sur le mot que vous avez cité, Pierre, qui me paraît tout à fait intéressant, il importe que le pays avance. Ça peut paraître banal comme ça. Ça veut dire quand même, en clair, il n'y a pas que le problème des retraites qui nous préoccupe. Il y a d'autres sujets. Que le travail suppose une contrepartie assez forte pour que justement il ait une valeur, c'est un point sociologique qui est fondamental. Que l'aide sociale, c'est-à-dire le RSA, suppose une réponse, rappelons-nous le mot célèbre, hein, ne nous demandez pas ce que l'État vous doit, mais demandez-vous ce que vous devez à l'État. C'est un peu ça, cette philosophie de la contrepartie. Le peuple n'est pas un créancier de l'État, l'État c'est le peuple, il faut travailler ensemble.
Autre punchline en ce qui concerne Marine Le Pen. Marine Le Pen arrivera si on ne sait pas répondre aux défis du pays et si on installe une habitude du mensonge ou de déni du réel. Si on lâche en disant « il n'y a pas de problème, qui gagne ?» Voilà la question qui est posée.
Déjà, c'est très intéressant qu'un président en exercice... Alors, quand il dit Marine Le Pen arrivera, vous me livrez, j'avais pas l'information. Ouais. Arrivera quoi ? Au pouvoir, arrivera au second tour. En tout cas, qu'un président en exercice fasse un commentaire sur un pronostic présidentiel. Alors, il a le droit de le faire, bien sûr, mais déjà, ça en dit long sur son changement de statut par rapport au premier quinquennat où il peut pas. J'ai pas de souvenir qu'il ait fait de telles déclarations. C'est vrai que la force de Marine Le Pen et du vote RN, c'est l'alternative. On n'a jamais essayé ce vote-là. C'est ce qui a aussi poussé Mme Meloni au pouvoir en Italie. Et c'est l'idée du déclin du pays. Il y a des problèmes qui n'ont jamais été réglés et les différentes personnalités ou forces au pouvoir n'ont pas réussi à le faire. Donc c'est vrai qu'un discours de parler vrai et d'attaquer le RN, qui pour beaucoup de Français, vous vous rappelez la fameuse phrase qui lui avait été reprochée de Laurent Fabius, qui disait « le FN fait des bons constats, mais apporte des mauvaises réponses », c'est un mantra qu'Emmanuel Macron, je trouve, utilise.
Jean-Yves Le Borgne.
J'aime bien, moi, cette évocation de l'habitude du mensonge. Il y a une certaine opposition, le Rassemblement national y est dans mon esprit, et la NUPES tout autant avec d'autres propos, qui consiste à s'installer sur l'irresponsabilité. Quand on n'a pas de décision à prendre, c'est clair que l'on se spécialise dans la critique des décisions des autres. Rappelons-nous quand même que la thèse du Rassemblement national, c'est la retraite à 60 ans. De telle sorte que, finalement, l'idée, c'est de dire, vous avez une sorte de mythe, là, que vous croyez brillant au bout du chemin. En réalité, c'est une illusion. Le mensonge, c'est la liberté que l'on a de proposer des solutions impossibles. Moi, je suis en charge de la réalité quotidienne des jours et ça n'est pas la même eau.
Alors, j'apporterai un élément de complément. Pour que ce message, c'est-à-dire les constats du RN sont peut-être bons, mais c'est du mensonge, c'est du déni de la réalité et il n'y a pas de solution, il faut que le bloc central, c'est-à-dire la majorité telle qu'elle est, ait des résultats, montre que Emmanuel Macron au pouvoir a toujours la capacité de changer la vie. Qu'est-ce qui fait que Marine Le Pen apparaît aujourd'hui incontournable, que dans le baromètre Il faut fait du ciel pour Paris Match, elle apparaît comme celle qui incarne le mieux l'opposition à Emmanuel Macron? C'est l'absence de résultats, c'est ce récit que font beaucoup de Français quand on les fait parler sur la vie politique depuis 20 ans. Échec du quinquennat Chirac, déception voire trahison du quinquennat Sarkozy, hein, le travailler plus pour gagner plus, indifférence ou page Hollande tournée extrêmement vite et un quinquennat Macron entravé par les crises. C'est cette absence de résultat, l'idée que le politique n'a pas respecté son contrat, c'est-à-dire je vote pour vous, mais vous, en contrepartie, vous changez d'avis, vous pesez sur le cours des choses, vous transformez la vie des citoyens. C'est ce chemin, c'est cette absence de résultat qui, pour moi, apparaît comme la voie royale. On ne va pas parler de Marine Le Pen en 2027. Il y a autant de raisons pour lesquelles elle pourrait être battue qu'elle pourrait gagner, mais c'est ce chemin-là qui lui assure peut-être, peut-être des beaux jours dans les scrutins futurs.
Alors, il y a aussi, et c'est ce que ça faisait partie vraiment des tout premiers urgents qui sont tombés dans l'agence France Presse, mais il y a maintenant un lead avec une deuxième phrase qui me semble intéressante sur le mea culpa, lorsque Emmanuel Macron reconnaît qu'il aurait dû se mouiller davantage pour défendre la réforme. Peut-être que l'erreur a été de ne pas être assez présent pour donner une constance et porter cette réforme moi-même, dit le président, qui affirme toutefois que sa première ministre a sa confiance et qu'elle a bien fait son travail dans un moment difficile dans le pays. Alors là, c'est assez intéressant parce que du coup, il y a une mise en miroir, j'allais dire, d'Elisabeth Borne, Jean-Yves Le Borgne.
Oui, mais moi, je ne suis pas en harmonie avec ce jugement du président. Je disais tout à l'heure qu'il y avait aux yeux des Français une sorte d'incarnation de la réforme par Emmanuel Macron et donc en contrepoint.
Même s'il n'était pas présent dans les débats.
Bien entendu. Qui dira qu'Elisabeth Borne représente sur la scène politique, la réforme des retraites. Elle l'a portée, elle l'a conduite, elle l'a supportée.
Ouais, mais ce qui est incompréhensible dans le cheminement, c'est la façon dont, et c'est Michel Cotta qui le disait dans les grandes voix hier sur Europe 1, c'est la façon aussi rapide qu'il est allé juste au contact des Français. Imaginez, vous faites faire un gâteau qui ne plaît pas à 75% de vos invités. Bon, ils le mangent, évidemment ils ne sont pas contents. Et puis, tout d'un coup, vous sortez de cuisine alors qu'en fait, ils ne vous ont pas vu depuis 2 semaines. Et puis, vous allez leur serrer la main. Bah, évidemment, c'est assez étonnant.
Moi, je trouve que ça, quand même, plutôt de la gueule. Bon. Qu'aurions-nous dit si
c'est
le
du panache, vous voulez dire.
Oui, si vous voulez, c'est plus joli.
On n'est pas dans un prétoire.
Non, mais c'est un joli mot, le panache.
Non, mais attendez, c'est quand même...
Le panache, c'est dans les prétoires.
C'est quand même...
C'est Cyrano aussi.
Oui, mais c'est pas seulement dans les prétoires. Vous imaginez que le président ait été, soit encore... cloîtré dans le palais de l'Élysée, n'ose plus en sortir. Finalement, fasse passer le message qu'il regrette et qu'il se sent coupable. Non, il assume, il va et surtout, il annonce la suite.
Moi, je comprends cet aveu qui est très intéressant. Pour les Français, je l'ai dit, c'était la réforme Macron. Elle avait été annoncée à l'élection présidentielle, elle était dans le programme.
Elle n'a pas de nom d'ailleurs, on ne dit pas c'est la réforme, on dit pas c'est
très
intéressant. La loi du SOP.
En 1995, ce n'était pas la réforme Chirac, c'est la réforme Juppé.
Oui.
En 2010, Nicolas Sarkozy avait eu l'intelligence de se mettre un peu en dehors du jeu. C'était François Fillon et Éric Woerth, un ministre technicien vu comme un expert. Là, c'est vrai qu'on a été dans un entre-deux. D'un côté, c'était la réforme Macron parce qu'il avait annoncé dans sa campagne, de l'autre, et Elisabeth Borne et Olivier Dussopt ont eu du mal à incarner cette réforme. C'était une réforme sans incarnation, peut-être, et c'est peut-être ça le regret du président, a-t-il manqué un grand programme type, alors je vais sortir les vieilles références, la Sorbonne avec François Mitterrand en 92 pour vendre le traité de Maastricht. Il a manqué peut-être une grande émission, un grand moment de pédagogie et d'explication, puisque c'était les Français contre Emmanuel Macron. Peut-être que la politique de la chaise vide, entre guillemets, a été mal vécue.
Il y a peut-être aussi, et il nous manque une Charlotte Heuzin ou une Marie-Virginie Klein pour le côté communication de crise et communication politique, mais il y a dans ce mea culpa forcément quelque chose qui cherche à attendrir les lecteurs du Parisien et tous ceux qui vont lire l'interview. Il y a aussi, bon voilà, oui, j'ai peut-être fait une erreur, voilà.
Mais moi, voyez-vous,
faut avouer à demi pardonner.
Ce que je lis derrière ça, c'est j'aurais dû y aller moi-même. En gros, personne d'autre n'était capable de porter le fardeau. Et j'ai lu aussi dans le JDD un propos de Raffarin qui rappelait son appel à Matignon avec Chirac qui lui disait « Moi, c'est le régalien, toi, c'est tout le reste ». Le problème, c'est que ce reste-là, il est porté par qui ? Nous savons aussi qu'il y a un manque d'incarnation d'un certain nombre de personnes. Un homme seul ne peut pas tout assumer, il donne une direction. C'est d'ailleurs la définition constitutionnelle du président de la Ve République.
Merci cher Jean-Yves Le Borgne, merci Frédéric Dabi. On vous retrouve demain à 8h13 au micro de Sonia Mabrouk sur Europe 1 dans un instant, le journal de 19h, juste après une bonne BD qui nous plonge dans la France des années 60, la France des tontons flingueurs. Mats, le scénariste, nous en parle, ça s'appelle Le Grizzly, c'est le premier tome. Et puis le panorama à 19h30 sur cette guerre en Ukraine, il fallait qu'on fasse un point d'étape et on en parle avec les spécialistes. A tout de suite pour le journal de 19h.